Ma question pour mieux vous connaître ce soir était, qu'avez-vous fait enfin ce week-end avec l'allègement du confinement ? Daniel nous dit, j'ai enfin pu aller voir ma petite fille de 24 ans, masquée toutes les deux parce qu'elle veut me protéger. Pour Alice, c'était une balade d'une heure et du shopping, des emplettes dans les magasins de la gare Saint-Lazare. Et Véronique nous dit, je suis enfin allée déjeuner chez mon fils et ma belle-fille. J'ai revu mes petits-enfants qui m'attendaient avec impatience. Je suis revenue à pied et je dois dire que j'étais consternée par la foule dans les rues de Paris, nous dit donc Véronique. N'hésitez pas à partager avec nous ces petits moments de votre vie du week-end. C'est Myriam que j'accueille maintenant avec grand plaisir. Bonsoir Myriam.
Bonsoir, bonsoir Sabine, merci de m'écouter.
Bienvenue à vous.
Je vous appelle parce que je suis un peu perdue.
Oui.
Donc, j'ai 21 ans et je viens de sortir pendant le premier confinement d'une relation qui était très prenante, une relation amoureuse qui a duré 3 ans et où j'ai été victime de violences conjugales, où j'ai vécu un avortement également. Et maintenant, j'en parle avec beaucoup plus de calme, mais ça a été très, très dur de pouvoir couper le lien et rompre. Et c'est vraiment le premier confinement qui m'a aidée à le faire.
Mmh.
Et du coup, parce que j'étais rentrée chez mes parents. Et là, j'essaye de reprendre ma vie un petit peu en main, de me consacrer à mes études, de retrouver mes amis que j'avais complètement perdu. Et je débute une nouvelle relation amoureuse.
Mmh.
C'est très récent. C'est quelqu'un que j'ai rencontré via une application de rencontre. Et donc au départ, j'étais très très stressée parce que cette personne a énormément de similitudes avec mon ex-conjoint.
Ah.
Et pas en termes de caractère, mais en termes de profil, en termes de milieu social, en termes d'origine. Donc moi, j'ai un petit peu flippé. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je m'intéresse forcément aux mêmes personnes, au même caractère ? Est-ce que je cherche le même problème ? Et donc, durant ce confinement, vu qu'on habite tous les deux dans le même kilomètre, on a pu se voir.
Mmh.
3 fois. Donc là, j'ai passé tout le week-end chez cette personne et je me sentais très bien avec cette personne, mais je ne savais pas comment gérer ce début de relation, dans le sens où je sentais que j'avais énormément besoin d'affection, que j'étais limite collante envers cette personne. Donc moi, j'ai 21 ans, cette personne a 27 ans. Entre 21 et 27, on n'a pas les mêmes projets de vie, on n'a pas la même expérience. Et je me sentais comme celle qui collait. Et puis, malgré ma forte envie envers cette personne, mon problème de vaginisme a persisté. Et du coup, cette personne a très, très bien réagi. Mais là, quand je suis rentrée chez moi cet après-midi, j'ai pas pu passer à autre chose. Je suis passée toute l'après-midi dans mon lit à réfléchir, à me dire pourquoi j'arrive pas à avancer, qu'est-ce que je fais dans ma vie, je suis perdue, j'essaie de tout tenter et je sais pas quoi faire en fait. Je me sens juste complètement paumée.
Quand vous dites tout tenter, vous pensez à quoi ?
C'est-à-dire depuis ma rupture, j'ai essayé de faire de tout couper par rapport à la personne que j'étais avant, dans le sens où la première chose que j'ai faite déjà, c'était enlever mon implant contraceptif. C'est tout bête, mais j'avais l'impression que c'était ma manière de briser un petit peu les chaînes. J'ai commencé à boire alors que je ne buvais pas. J'ai voyagé, j'ai fait des achats que je n'ai pas l'habitude de faire. Je suis quelqu'un qui n'est absolument pas présent sur les réseaux. Et là, je me retrouve à draguer sur une app de rencontre. Enfin, ça ne me ressemblait pas, en fait. Et en même temps, je me sens très bien avec cette nouvelle personne. Mais en même temps, je ne sais pas quoi faire. Je me sens juste perdue. J'ai peur de mal faire les choses, de souffrir. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens juste complètement paumée.
C'est-à-dire, j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'en faisant ce que vous venez de décrire, vous avez testé toutes les différentes facettes de vous-même. Mais vous n'êtes pas allée réparer celle qui était à l'origine du problème.
Mais en fait, j'ai commencé une thérapie. Mmh. Donc c'est très récent, j'ai fait 2 séances. Donc c'était une thérapie EMDR.
Mmh.
Et la thérapeute m'avait expliqué que, qu'entre les violences conjugales le vaginisme, l'avortement et d'autres épisodes, en fait, ça crée comme des traumatismes et qu'il fallait travailler sur chacun des traumatismes à travers un épisode traumatique.
Oui.
Mais en même temps, j'ai pas envie de... Je suis très en colère contre moi-même parce que j'estime que j'ai perdu 3 ans de ma vie avec une personne qui m'étouffait et qui me privait de ma jeunesse et de la vie qu'on peut avoir quand on est une jeune fille de 20 ans. Et c'est pour ça que j'ai envie de me lancer le plus vite possible et de sortir et de rencontrer l'amour à nouveau et de juste vivre ma vie parce que j'estime que j'ai perdu trop de temps et que cette personne m'a tellement fait souffrir que...
Alors, oui, non, parce que... Oui, vous pouvez vous dire, j'ai perdu 3 ans. Vous pouvez aussi vous dire, ces 3 ans m'ont appris, m'ont servi à apprendre beaucoup de choses, à condition d'en apprendre quelque chose.
Dans quel sens ?
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas refaire ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous pouvez vous demander ce que vous allez en faire. C'est-à-dire en tirer un apprentissage, comprendre ce qui a pu se passer, ça on va en parler plus longuement si vous le voulez bien.
D'accord.
Comprendre comment vous avez pu arriver dans les bras de ce type-là, je parle du premier, hein, bien sûr.
Oui.
Et que ces 3 ans-là ne soient pas des années perdues, mais des années qui vous ont servi à apprendre des choses sur vous. Parce que vous allez pouvoir rebondir maintenant et être plus grande. Quand on considère dans la vie qu'une épreuve est un apprentissage et qu'on accepte d'en apprendre quelque chose, alors on avance. Quand on se complaint, on n'avance pas. Si on se dit, pauvre de moi, j'ai perdu 3 ans, oh là là, ok, c'est que ça ne servait à rien. Et vous risquez de reproduire les mêmes schémas et de reperdre encore des années. En revanche, si vous vous posez en essayant de comprendre les choses, en apprenant de tout ça, alors vous allez en sortir bien plus forte, bien plus grande.
Mais en fait, c'était ma toute première histoire.
Mmh.
Et c'est une personne que j'ai rencontrée à l'âge de 17 ans. Et donc, tout mon environnement tournait autour de cette personne. Et réciproquement,
c'est-à-dire
parce qu'on est tous les deux étudiants à l'étranger. Donc moi la France, ce n'est pas mon pays d'origine. Je suis ici pour mes études.
Mmh.
Et cette personne-là également. Et du coup, on s'est tous les deux retrouvés complètement isolés de nos familles.
Mmh.
Et je me suis mise à vivre avec cette personne dans un petit appartement. Et toute ma vie tournait autour de mon ex-conjoint.
Ben oui, mais avant d'arriver en France, comment vous avez vécu votre enfance, votre adolescence ? Est-ce que ça allait déjà à la maison ?
À la maison, ça allait bien.
Ouais.
Je viens d'une famille qui est très heureuse.
Mm-hmm.
Après, mes parents ne sont pas forcément le modèle du couple modèle, dans le sens où mes parents sont mariés parce que chez nous, le divorce, c'est un tabou. Mais ce sont des parents qui ont toujours été présents pour moi, que ce soit en termes d'éducation ou de famille,
mmh.
mais je ne peux pas leur parler de mes relations. Et je n'ai pas pu leur parler de mes problèmes de couple. Je ne leur ai d'ailleurs jamais parlé de mon couple. Ils savaient que j'étais en couple, ils s'en doutaient. Mais c'est des choses qui ne se disent pas.
Pourquoi ? Même avec maman ?
Ça a pris 3 ans. C'est quand j'ai rompu avec la personne et que j'ai passé 4 mois et demi de confinement chez eux et que j'avais tellement de colère en moi et que je ne supportais pas tous ces non-dits que j'ai explosé. Et là, je lui ai tout raconté à ma mère. Mais ça a pris 3 ans.
Et comment est-ce qu'elle a réagi ?
Elle m'a regardée, elle était silencieuse et elle a eu la réponse à laquelle je m'attendais le moins au monde. Elle m'a dit, ben, ma fille, moi aussi, j'ai avorté quand j'avais ton âge. Et ça, je ne m'y attendais pas.
Mmh.
Et du coup, depuis, j'essaye tant bien que mal de garder ce lien que j'ai eu de la peine à construire. Parce que je suppose que ma mère a toujours fait de son mieux pour me donner la meilleure éducation possible.
Mmh.
Mais on ne parlait pas de tout ce qui est relationnel. Parce que même chez moi, je ne sais même pas comment mes parents se sont rencontrés. Ou je n'ai jamais vu de tendresse entre eux ou de mots d'amour. Il y a eu du respect. Il y avait des disputes, mais il n'y a jamais eu de tendresse. Donc, je ne me voyais pas leur parler de mes histoires d'amour à moi.
D'accord.
C'était pas possible. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée complètement isolée dans mon problème de couple, parce
ouais.
que je ne me voyais pas leur raconter ou leur expliquer.
Dans votre pays et dans votre avant de venir en France, il y a eu personne, il n'y a jamais eu un petit flirt, un premier amour à 14-15 ans ?
Non, jamais.
Non?
Jamais. C'était mon premier tout et mon premier baiser volé aussi. Et je pense que c'est pour ça que ça a créé un problème de vaginisme derrière. Parce que dès le départ, ça s'est pas bien passé. Et comme c'était ma première histoire, ben je voulais quand même tenter, essayer, et j'idéalisais la personne. Et je me suis.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dès le départ, ça s'est pas très bien passé. Sur quel plan physique?
Sur le plan où dès le départ, j'étais pas forcément très attirée physiquement par la personne, c'est juste parce que la personne s'intéressait à moi et que j'avais pas forcément confiance en moi. Et puis même mon premier bisou, c'était pas un bisou que j'ai bien voulu donner, c'est un bisou qu'on m'a volé. Et ça, j'ai du mal à le pardonner.
Ah
C'est
oui,
tout
donc
bête,
il
mais
vous a forcé la main dès le début, alors.
oui, mais c'était pas violent ou quoi que ce soit au départ. C'était anodin, mais c'était un bisou volé quand même.
C'est pas respectueux, même si c'est anodin.
Oui. Et sur le moment, on le réalise pas. Enfin, sur le moment, je pense que je m'étais mise en colère, mais je suis passée à autre chose. Je me suis dit, tu vas pas faire une scène pour ça. Toute ma relation a été basée sur ce genre d'éléments. Parce que je ne supporte pas de vexer la personne avec qui j'étais et elle rentrait dans des colères pas possibles et après ça s'est accentué en parallèle je m'isolais complètement.
Est-ce que physiquement vous avez réussi à avoir des rapports avec lui quand même ou dès le début ça a coincé?
Dès le début ça a
Ah oui,
coincé.
c'est qu'il y avait vraiment quelque
Dès le
chose.
début ça a coincé et malgré tout je suis quand même tombée enceinte. Mais dès le début il n'y a pas eu de pénétration. Et on essayait quand même et du coup enfin après pour moi le rapport intime ça devenait un poids, ça devenait un stress, ça a jamais été un moment de plaisir pour moi. En 3 ans du coup je n'ai jamais voulu avoir de rapport intime volontairement. Ça a pas été un viol, je ne pense pas que ça a été un viol, mais plus dans le sens
Une
où c'est
obligation, quoi.
un stress, une pression.
Ouais. Une
Donc,
contrainte.
oui. Voilà, c'était une contrainte. C'était pas quelque chose que je faisais par plaisir.
Et quand vous avez appris que vous étiez enceinte, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit là, à ce moment-là?
À ce moment-là, c'était clair dans ma tête. C'était un mécanisme. Je savais que j'allais avorter. Je ne me voyais pas être enceinte à l'âge de 18 ans. Après, ce qui passait dans ma tête aussi, c'était la colère. Parce qu'à ce moment-là, ma maman était avec moi en France. Et on se voyait tous les jours et je ne pouvais rien lui dire. Je suis partie avec mon ex-copain pour que j'avorte et j'ai avorté. Et le soir, j'ai rentré, j'ai vu ma mère et je pouvais rien lui dire.
Vous dites que vous
Même.
ne pouviez pas, c'est parce que vous ne vouliez pas en réalité.
Oui,
Vous ne
certes,
pouviez,
sûrement.
vous n'y arriviez pas.
Je n'y arrivais pas. Et du coup, j'étais complètement en colère contre elle parce que je n'y arrivais pas et je trouvais ça pas juste
Ouais.
parce qu'on n'avait pas ce lien-là. Une maman, c'est censé aimer et protéger. Ma mère m'a toujours aimée et protégée. Elle m'a tout donné. Mais ce lien-là, le lien dans lequel on peut se confier à sa mère et on peut lui raconter ce genre de choses, ben, on l'a jamais eu. Et là, dernièrement, quand j'ai été confinée chez eux pendant 4 mois et demi, je supportais pas de la regarder et de lui cacher autant de ma vie. Et c'est sorti. C'est sorti avec colère et larmes, mais c'est sorti.
Voyez, là au moins le côté positif, c'est que maintenant cette relation-là d'intimité avec maman, vous l'avez établie.
Oui, c'est encore
C'est
très
fragile,
très
j'entends bien, mais.
gênant. Quand on parle, c'est super gênant dans le sens où c'est pas naturel. Je me force à le faire, mais je me dis que si elle avait été là pour moi quand mon ex-copain me frappait ou m'isolait ou m'imposait des choses, ben j'aurais fait de meilleurs choix. Et c'est pour ça que j'essaye de m'efforcer à garder ce lien parce que je pense et je dis ça aussi pour les parents qui nous entendent. Il faut écoutez vos enfants, il faut pas leur interdire, il faut faire le lien. Il faut vraiment essayer de sauver ce lien-là parce que sans les juger, juste les écouter quand ils viennent.
J'irai plus loin que vous, il ne faut pas seulement les écouter, il faut les inciter à parler.
Oui,
Parce
c'est
que
super important.
quelquefois, il est comme dans votre cas, elle aurait peut-être pu vous écouter, mais elle ne vous a pas incité à ouvrir la porte. Et vous êtes restées chacune d'un côté de la porte fermée.
Surtout qu'on a eu la même histoire au final.
Ça, c'est ça
Quand
qui est
elle
fou, hein.
était
Ouais.
à ton âge, j'ai fait la même chose. C'est dingue. Alors que quelques mois avant, je me rappelle, j'étais en voiture avec elle. Elle m'a dit, nous, dans notre famille, on n'a pas les filles qui font du concubinage. Donc je me voyais absolument pas lui
Lui
raconter mon
parler de ça, oui.
problème. pour mon histoire, c'était inimaginable pour moi.
Bien sûr. Myriam, on va marquer une pause, le temps des infos, si vous le permettez.
Bien sûr.
Et nous reprenons notre conversation dans quelques minutes. D'accord ?
Merci beaucoup.
Merci à vous, à tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Cette deuxième et dernière partie de la Libre Antenne, nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h du matin. Ça nous laisse une petite heure pour partager encore nos moments de vie. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez envie de prendre la parole ce soir. Vous faites le 3921. Estelle et Maxime sont là à votre disposition. Standard Europe 1, ils attendent vos appels. Pour continuer à réagir par SMS, vous faites le 739-21 en commençant bien par le mot « nuit » suivi de votre message. Et si vous souhaitez entrer en contact avec nous par mail, c'est à l'adresse suivante, libreantenne, tout attaché, libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et je récupère Myriam. Vous êtes là, Myriam ?
Oui, je suis là.
En pleine interrogation sur votre jeune vie amoureuse ?
C'est ça.
On était en train de dire à quel point c'est important d'avoir créé ce lien avec votre maman, ce lien d'intimité que vous n'aviez pas pour oser lui parler de ces choses-là.
Oui, il faut en parler. Et il faut vraiment créer ce genre de lien avec vos enfants ou avec vos parents parce que ça permet vraiment d'éviter des erreurs. C'est très, très important.
Alors ça, c'est une première chose positive qui ressort de ce que vous avez traversé. Vous m'avez dit être suivie par une psy.
Oui. Je viens de commencer.
Combien de rendez-vous avez-vous eu ?
Là, on a eu deux rendez-vous.
Oui.
Le premier en visio et le deuxième en présentiel.
Mmh.
Et la psy a choisi d'évoquer en premier mon avortement.
Oui.
Donc, même si j'estimais que ce n'était pas si traumatique que ça pour moi, elle m'a dit que c'est ce que disaient de nombreuses jeunes filles de mon âge, mais qu'un avortement, dans tous les cas, ça reste... un traumatisme dans la vie d'une femme et que c'est normal de se mettre en mode survie pour ne pas ressentir grand-chose. Du coup, on a parlé de ça.
Oui.
Et là, elle souhaite parler des violences pour la prochaine séance.
Est-ce qu'avant ce garçon-là, vous aviez subi de la part de qui que ce soit des violences physiques ou verbales ?
Jamais.
Jamais.
Violences verbales, comme n'importe quel adolescent au collège ou... On entend des remarques méchantes, mais jamais d'harcèlement. Mais ce n'est pas dans mon caractère de répondre ou de confronter, mais je n'ai jamais de ma vie entendu ou vécu de violence avant cette relation. Et je me rappelle, ça a commencé par un truc tout bête. On était chez moi, à mon appartement, et pour nos vols de retour pour notre pays d'origine, c'était mes parents qui prenaient mon billet parce que mes parents n'avaient pas pris le même jour que le sien. Il a crié, il a pris ma tête et après il a frappé je me suis enfermée dans la salle de bain, il a frappé dans la porte de la salle de bain, ça a fait un trou énorme dans la porte de la salle de bain et c'est à partir de ce moment-là que les problèmes de violence conjugale ont commencé. Et du coup, au début, je réagissais pas.
C'est ce que je voulais vous demander. Comment vous avez réagi à cette première montée de violence ?
Au départ, j'étais pétrifiée. Je m'y attendais pas. J'étais choquée, surprise. Et je viens d'une famille où les femmes sont indépendantes, où on a confiance en nous. Et jamais j'aurais cru un jour pouvoir vivre ça. Et encore moins de cette personne-là, parce que je me disais, oui, c'est une personne qui est cultivée, ouverte d'esprit, qui vient d'un certain milieu. C'est pas... Enfin, je mettais pas forcément les violences conjugales avec... J'associais pas les violences conjugales avec ce genre de profil.
Malheureusement,
il y en a chez tout le monde.
Exactement. Aucun milieu social n'est épargné par ça, ça c'est sûr.
Et du coup, au départ, j'étais pétrifiée. Et ça se reproduisait très 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 souvent dès qu'on se voyait pour des choses toutes bêtes. Je me rappelle une fois, il voulait m'aider et donc moi j'étais en cours et il m'a dit oui, vu que tu es en cours et qu'il y avait ta valise, je me suis dit je vais la défaire et je vais aider à ranger tes affaires. Et là, il tombe sur un journal intime que je tenais quand j'étais au lycée et au collège où je notais le prénom des garçons desquels j'étais secrètement amoureuse, enfin, comme toute, n'importe quelle adolescente de 14 ans, 15 ans.
Bien sûr.
Et il tombe sur ça et je me rappelle, je sors de mon école et je venais sortir d'un contrôle de 5 heures et là, je le vois avec un regard noir, mais vraiment un regard noir, et il avait le carnet en main. Et là, je savais que c'était foutu pour moi, c'était que j'allais passer un sale moment. Et du coup, là, c'est monté en violence comme pas possible. Les gifles, les coups, les insultes. Et comme si j'étais, comme si je ne sais pas, enfin, comme si j'avais fait quelque chose de complètement abominable. Et je voulais juste que ça s'arrête. Et à la fin, j'ai passé un week-end complètement horrible. Et à la fin, il m'a obligée à jeter le carnet. Et j'ai dû le supplier de me pardonner. Et donc, ça, c'est le genre de crise qu'il y a eu au départ, dans le sens où c'était moi qui provoquais cette personne. En tout cas, c'est ce qu'il disait.
C'est ce qu'il dit toujours, hein, je vous rassure.
Oui. Et après, quand on a vécu ensemble, je commençais à répondre. Je commençais à me défendre, on va dire. Mais j'ai zéro force devant cette personne-là. Et du coup, c'était une blague, quoi. Je n'ai pas de force pour me défendre. Et après, il me disait, oui, mais toi aussi, tu me frappes. Et ce n'est pas la réponse, il ne faut pas frapper. Et à la fin, je me rappelle même qu'à des moments, je disais, je vais appeler la police. Et je composais le numéro. Et il me disait, appelle. Et je ne vous ai jamais appelé parce que j'avais trop honte. J'avais trop honte de ce qui se passait et je me disais non, je vaux mieux que ça, je ne peux pas être une victime, je vaux mieux que ça et ça ne me ressemble pas. Et je ne voulais pas faire d'histoire, je ne voulais pas embêter la police avec des histoires aussi débiles, alors que s'il faut appeler la police,
bien sûr qu'il faut,
quand il y a ces problèmes-là.
Et ça veut dire que vous n'en avez parlé absolument à personne, même pas une copine, quelqu'un, un prof ?
Non, jamais. Un soir, j'étais à Paris et j'étais complètement tétanisée. Il n'était pas là. C'était une dispute par téléphone et j'étais dans un état lamentable. Et je suis partie à 3h du matin chez une amie que je n'avais pas vue depuis 2 ans. Et je lui ai tout raconté. Et cette amie m'a dit de rompre, de me séparer, de m'éloigner de cette personne, mais c'était trop compliqué. Et j'étais convaincue de ce que j'allais faire, j'étais convaincue qu'on allait rompre. Mais c'est difficile, vous savez, c'est tellement dur de couper net ce lien. On a l'impression qu'on est comme dans une prison.
Dépendante complètement.
Comme une prison invisible.
Ils sont très forts pour ça, ces gens-là.
Que c'est impossible de quitter ce lien, que c'est juste impossible. Alors que si, c'est possible.
Alors justement, comment ça s'est passé matériellement, concrètement ? Vous êtes reparti chez vos parents pendant le confinement, mais j'imagine qu'il y avait l'appartement en commun, les affaires encore là-bas. Comment vous avez géré ça avec un type pareil ?
Moi, franchement, le confinement, ça a été libérateur pour moi. J'ai été en prison pendant 3 ans. Et le confinement, ça a été plus que libérateur parce que j'ai pu rentrer chez mes parents pendant 4 mois et demi. Et en plus, j'avais tellement de colère contre mes parents parce qu'ils ne voyaient pas ça. Donc, j'étais en colère contre eux au lieu d'être en colère contre la mauvaise personne. Mmh. Et en fait, plus je passais du temps chez mes parents, plus je voyais que c'était des personnes qui m'aimaient, ce sont mes parents, et que j'étais bien avec eux. Et plus ils m'appelaient, moins j'avais envie de lui parler, et plus ils m'embêtaient. Et à la fin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'en avais juste ras-le-bol. Et j'en pouvais plus. Et je me rappelle, on s'était encore disputé pour je ne sais quoi. Et lui, il m'a dit, toi et moi, c'est fini. Et moi, c'était comme une occasion en or pour moi. Donc, j'ai saisi cette brèche qu'il m'a donnée. Mmh. Et après, il me dit non. J'ai dit ça juste pour que tu me...
J'allais dire, il s'en est sûrement bouffé les doigts très vite, oui, forcément. Ouais.
Pour que tu tiens à moi, pour que tu me prouves que tu tiens bien à moi.
Eh ben non.
Et moi, franchement, j'aurais jamais osé lui dire c'est fini. En plus, comme on vient pas forcément du même milieu social, il gérait l'argent, il avait mes cartes bancaires, il gérait avec qui je pouvais sortir, il gérait toute ma vie.
Je devais demander
l'autorisation pour tout et je ne montrais ça à personne. Je ne montrais ça à personne.
Comment vous avez pu en sortir matériellement pour récupérer tout ça ?
Alors, Donc, comme j'étais chez mes parents pendant 4 mois et demi et que j'ai décidé de rompre, donc je lui ai annoncé que j'allais rompre, mais je n'ai pas bloqué cette personne par téléphone. Je n'ai pas pu. Je me suis dit non, non, Myriam, vu que vous avez vécu 3 ans ensemble, il doit sûrement souffrir, le pauvre. Donc, tu ne le bloques pas et tu restes en contact avec lui. Et du coup, pendant un mois, j'ai eu droit à des insultes à 3 heures du matin, des appels interminables où il m'insulte, où il me supplie, où il me demande pardon et pour qu'il me réinsulte, pour qu'il me dise que je suis une personne horrible, qui lui a fait des promesses interminables et qui lui a brisé le cœur. Donc, c'était un engrenage comme ça. Et après, j'en pouvais plus. Et j'ai bloqué cette personne et j'ai décidé de rentrer à Paris un peu avant septembre pour me réhabituer au fait de vivre seule. Parce qu'en parallèle, j'avais un studio où je pouvais vivre à Paris, mais dans lequel je ne vivais pas parce que j'avais choisi de vivre avec cette personne-là. Et j'ai réappris à habiter dans mon studio avec le peu d'affaires que j'avais. J'en ai racheté d'autres. Et je n'ai pas eu contact avec cette personne pendant plusieurs mois jusqu'à il y a peut-être quelques semaines. Mm-hmm. Où je reçois un message très très formel de cette personne où il me dit oui, viens récupérer tes affaires. Et là, je m'effondre. Je coule en larmes, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est un message vraiment très très formel. Mais dès que je vois ce message, je sens que la peur est en train de monter en moi comme s'il pouvait venir à chaque instant à ma porte. Mmh. Je me sentais tellement vulnérable. Et du coup, j'ai décidé d'y aller avec des amis à moi. Parce que du moment où j'ai rompu, j'ai commencé à parler. Et j'ai décidé d'y aller avec des amis à moi sans le prévenir. Et quand je suis partie, cette personne-là, elle était un peu surprise de les voir, mais elle était absolument charmante et sympathique.
Ah bah oui, quand il y a des preuves en face, ah bah oui.
Oui, complètement, témoins, adorable. Je dirais, oui. C'est comme si t'étais moi la menteuse. Comme si j'inventais.
C'est le propre des manipulateurs. Hein.
Et c'est fou, je trouve ça juste complètement fou. J'ai limite douté de moi-même. Je me disais, mais est-ce que tout ce que j'ai raconté, c'est vrai ou pas? Est-ce que j'exagérais pas un petit peu? Et là, j'essaie vraiment de passer à autre chose dans ma vie. Et il y a toujours ce problème de vaginisme qui persiste et ce manque de confiance et d'estime en moi dans ma toute nouvelle relation amoureuse. Et,
alors, ce nouveau garçon, est-ce qu'il va bien déjà? Est-ce que c'est quelqu'un d'équilibré?
Pour l'instant, oui. Je le connais pas depuis. J'ai du mal à faire confiance. Mais... pour l'instant, des 4 semaines que je le connais, oui, c'est quelqu'un de stable dans sa tête, c'est quelqu'un de très autonome. Par exemple, hier, j'étais chez lui, il est sorti, il m'a laissé, il a fait sa vie et ça m'allait parce que j'ai besoin de quelqu'un qui ne m'étouffe pas.
Bien sûr.
Mais en même temps, j'ai besoin d'être rassurée, d'être protégée et de me sentir en sécurité. Et à mon corps qui ne veut pas passer à autre chose. Il y a mon corps qui ne veut pas se débloquer. Et ça m'énerve parce que c'est comme si je dépendais toujours de cette personne. Surtout que mon ex-conjoint, il ressortait à tout bout de champ ce problème de vaginisme. Et à la fin, quand je voulais rompre et qu'il n'avait plus d'arguments, ou plutôt que ses arguments n'avaient plus d'emprise sur moi, il m'a dit « Mais de toute façon, avec ton problème, il n'y a personne qui voudra de toi. »
Bien sûr.
Ou alors, il utilisait l'avortement. Il disait « On a quand même failli avoir un bébé ensemble. »
Mais vous savez maintenant que c'est de la manipulation, tout ça.
Oui.
Est-ce que votre nouveau compagnon...
Je sens encore les traces.
Est-ce que... Bah évidemment, c'est encore tout frais et vous n'avez pas encore travaillé là-dessus. Est-ce que votre nouveau compagnon est au courant de tout ça?
Oui, je lui en ai parlé.
Bon.
Je lui en ai parlé.
Et comment il réagit, lui?
Au début, il était très, très surpris parce qu'il m'a dit... Ça me choque parce que l'ex-copain de mon ex-copine lui faisait subir des violences aussi et que c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Donc au début, il était surpris parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait autant de violences conjugales dans les couples, dans les jeunes couples même chez des filles indépendantes et jeunes et qui font la fête et tout ça. Et après, il a très très bien réagi. Il a très très bien réagi. Il était à l'écoute, Il m'a dit « c'est pas ta faute, ça vient pas de toi, c'est lui le problème. » Et il m'a dit « on prendra notre temps, il n'y a pas d'urgence. »
Alors maintenant, pour avancer, moi, je pense que ça serait très bien de continuer votre travail avec cette psy que vous voyez.
Oui.
Et en parallèle, je trouve que ça serait vraiment intéressant de voir quelqu'un dont c'est la spécialité, c'est-à-dire qui s'occupe vraiment des problèmes sexuels.
Oui.
Et si possible, cumuler à l'hypnose. Et je vois sur votre fiche où vous habitez.
Oui.
Et cherchez dans votre quartier une sexologue qui pratique l'hypnose, il y en a une excellente.
D'accord.
Vous okay. la trouverez. Il n'y en a pas 10 000. Hein. Là où vous habitez, il n'y en a pas 10 000.
D'accord.
Qui consulte à distance et en présentiel. Et le cumul de la spécialité de sexologie plus l'hypnose, ça fait vraiment de très bons résultats. C'est quelqu'un qui pourra vous accompagner avec beaucoup de douceur et vous aider justement à réparer tout ce qui est blessé dans la tête et dans le corps en même temps.
Super.
Hein, ça, c'est vraiment important.
Oui.
Et puis mais ensuite, effectivement, travailler avec votre psy sur ces traumatismes-là qui sont venus déjà faire des séquelles dans votre jeune vie.
Oui.
Mais ça se répare aussi tout ça, heureusement.
Ce que je ressens le plus, c'est même pas de la haine envers cette personne-là, c'est de la colère envers moi-même. C'est de la colère envers moi-même parce que je n'ai pas parlé, parce que je ne me suis pas libérée assez tôt de ça. Et c'est fou parce que je me dis, on peut vraiment se libérer. Il faut prendre son courage. Même si ça paraît horrible et impossible et on a l'impression d'être complètement bloqué et que c'est notre destin et on se dit, oui, mais des fois, il est gentil et ça. Non, on peut se libérer et on vaut toujours mieux. Et je suis juste en colère contre moi-même de ne pas l'avoir compris plus tôt. Et je le dis aussi, s'il y a des personnes qui l'écoutent et qui sont dans ce cas-là, je vous assure que vous valez mieux. Vous valez tellement mieux. Vous valez tellement mieux et ne vous oubliez pas et ne vous perdez pas. Aimez-vous.
C'est un beau message, mais surtout, servez-vous, Myriam, de cette colère comme moteur pour avancer, justement. Quand je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est ce qui vous est arrivé, certes, mais c'est ce que vous allez en faire. Servez-vous de tout ça comme un apprentissage et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est très bien, ça va vous rendre tellement plus forte.
D'accord.
Hein? Et cherchez cette personne dont je vous parle.
Je vais voir les coordonnées de cette personne.
Allez voir du côté de la rue de la Convention si vous voyez.
D'accord.
Hein? Et puis je pense qu'elle va vraiment vous aider beaucoup. Et puis et vous verrez dans quelques temps quand vous retournerez à quel point ça vous a fait grandir tout ça.
J'espère.
J'en suis persuadée. En tout cas, vous faites preuve d'une maturité étonnante pour une jeune fille de 21 ans. Vraiment.
Merci.
Juste pour savoir, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier?
J'aimerais devenir chef d'entreprise et gérer et être experte comptable, mais ça ne me ressemble pas en fait. C'est des études bien, c'est des études qui rapportent, mais oui. Ça ne me ressemble pas.
Alors là aussi, faites-vous davantage confiance. Écoutez-vous.
Oui. Hein?
Ouais. Merci de votre témoignage, Myriam. Je vous embrasse
très
fort.
Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.